À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Généalogie spirituelle », animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
Nos parents spirituels se reconnaissent facilement à l'influence qu'ils exercent sur nous, à la place qu'ils tiennent dans notre cœur et notre esprit, et à l'admiration que nous leur portons. La grâce de leur rencontre intensifie, densifie notre existence et nous fait grandir. À leur contact, nous devenons plus libres, plus humain, plus proche de Dieu. Je considère Eti Illesum comme faisant partie de ma parenté spirituelle, depuis que la lecture de son journal, qui porte un titre fort bien choisi, « Une vie bouleversée », m'a profondément ému. J'y ai découvert, au-delà de toute attente, au cœur même de l'indicible noirceur de la Shoah, la persécution des Juifs durant la dernière guerre, une personne lumineuse, belle, généreuse, compatissante, merveilleusement intelligente, qui, s'éveillant à la présence de Dieu en elle, ne cessera pas d'affirmer à qui veut l'entendre que la vie a du sens et qu'elle est belle. Je voudrais me faire plaisir et rendre hommage à cette grande dame en vous la présentant à travers les textes de son journal qui m'ont le plus impressionné. Quelques notes biographiques pour vous situer. Eti, un diminutif de Esther, Eti Illesum est née le 15 janvier 1914, à Middelburg, aux Pays-Bas, dans une famille juive d'un père professeur de lycée, agnostique et non-croyant, et d'une mère d'origine russe. Elle a grandi à Amsterdam, comme ses deux frères cadets, à l'écart de toute référence religieuse. Elle a 24 ans quand, le 14 mai 1940, les Pays-Bas capitulent devant l'avance des nazis et quand commence la déportation des Juifs vers les camps de concentration et de mort. Engagée dans les services administratifs du Conseil juif d'Amsterdam en juillet 1942, elle ira travailler au camp de transit de Westerbork, où elle se dépensera sans compter. C'est là qu'elle a rencontré une carmélite portant l'étoile jaune, Edith Stein. Déportée avec les siens en septembre 1943, Etty mourra à Auschwitz le 30 novembre suivant. Elle avait 29 ans. C'est pendant les trois années qui précèdent sa mort, à partir du 8 mars 1941, qu'Etty rédigera fidèlement son journal. Il faudra attendre 45 ans pour que cette œuvre magnifique soit connue du grand public. La traduction française intégrale du journal et des lettres de Westerbrock sous le titre « Une vie bouleversée » date de 1995. Un des facteurs déterminants de la profonde évolution humaine et spirituelle d'Etty fut sa rencontre avec Julius Speer, dont elle fut l'élève, le secrétaire et l'ami intime. C'est lui qui l'aidera à oser prononcer le nom de Dieu et qui l'initiera peu à peu à la Bible et à l'expérience de la prière qu'il pratiquait lui-même. Ce juif allemand, émigré aux Pays-Bas en 1939, exerçait comme disciple de Carl Jung la profession de psychologue. Etty le désigne dans son journal comme le grand déchiffreur, le grand chercheur et le grand trouveur de Dieu, le grand ami. Il fut littéralement pour elle l'accoucheur de son âme. Un autre élément important pour expliquer l'étonnante maturité spirituelle qu'atteindra Etty Illesum se trouve précisément dans la décision qu'elle prend, le dimanche 9 mars 1941, d'aller au fond d'elle-même, en consignant régulièrement dans son journal ses états d'âme, ses lectures de la réalité, ses découvertes et ses passions. Elle écrit « Eh bien, allons-y, moment pénible, barrière presque infranchissable pour moi, vaincre mes réticences et livrer le fond de mon cœur à un candide morceau de papier quadrillé. » Tels sont les premiers mots du journal qui se termine par cette phrase « On voudrait être un baume versé sur tant de plaies. » La préface de l'édition originale néerlandaise signale que toute la vie d'Etty se trouve enserrée entre deux citations, celle du jeudi 10 novembre 1941. Je cite « Angoisse devant la vie à tout point de vue, dépression totale, manque de confiance en moi, dégoût, angoisse. » Fin de la citation. Et celle du vendredi 3 juillet 1942. « Bon, on veut notre extermination complète. Cette certitude nouvelle, je l'accepte. Je le sais maintenant. Je n'imposerai pas aux autres mes angoisses et je me garderai de toute rancœur s'ils ne comprennent pas ce qui nous arrive à nous, les Juifs. » Mais une certitude acquise ne doit pas être rongée ou affaiblie par une autre. Je travaille et je vis avec la même conviction. Et je trouve la vie pleine de sens, oui, pleine de sens, malgré tout, en dépit de tout. Etty expérimente l'efficacité de l'écriture pour explorer le cœur humain, le sien et celui des autres. Elle se sent appelée à écrire, à aller au bout du dire de l'écriture, à maîtriser les mots et les silences pour transmettre l'espoir, pour aider les autres et préparer les temps nouveaux. Elle veut être le cœur pensant des autres et venir à bout de tout par le langage. En déchiffrant les visages, écrit-elle, en déchiffrant des milliers de gestes, de petites phrases, de récits, je me suis mis à lire le message de notre époque, et un message qui, en même temps, la dépasse. Ayant appris à lire en moi-même, je me suis avisé que je pouvais lire aussi dans les autres. Rien n'est plus beau que de lire la vie en déchiffrant les êtres. Elle s'adresse à Dieu. Je te remercie de m'avoir donné le don de lire dans les cœurs des autres. Les gens sont parfois pour moi des maisons aux portes ouvertes. J'entre, j'erre à travers des couloirs, des pièces. Dans chaque maison, l'aménagement est un peu différent. Pourtant, elles sont toutes semblables. Et l'on devrait pouvoir faire de chacune d'elles un sanctuaire pour toi, mon Dieu. Et je te le promets, mon Dieu, je te chercherai un logement et un toit dans le plus grand nombre de maisons possibles. Ce travail assidu d'écriture a ouvert et creusé singulièrement chez Etty de vastes espaces intérieurs. C'est tout un univers, un ciel en soi, une intériorité inaliénable qu'elle découvre petit à petit en elle. Sa vie devient une perpétuelle écoute au-dedans. S'affranchissant peu à peu de l'univers matériel, des choses matérielles, pour permettre à l'esprit de fonctionner, l'urgence intérieure deviendra pour elle le guide de sa conduite. Elle s'en remettra à ses voies intérieures. Elle choisira les chemins intérieurs. Et c'est là qu'Etty découvre le mystère de Dieu. Et c'est là qu'elle trouve le courage de prononcer son nom et de le révéler aux autres. Elle en arrive à vivre constamment dans la familiarité avec lui, ayant envers lui d'émouvantes attentions, comme si sa compassion la poussait à prendre elle-même Dieu à sa charge. Elle veut aider Dieu, lui pardonner, prendre soin de lui. Elle désire qu'il soit chez elle en bonne main. C'est dire l'immense confiance qui l'habite, que rien ne peut lui ravir et qui la jette dans les bras de Dieu. Voici quelques extraits de son journal. Le sentiment de la vie est si fort en moi, si grand, si serein, si plein de gratitude, que je ne chercherai pas un instant à l'exprimer d'un seul mot. J'ai en moi un bonheur si complet et si parfait, mon Dieu. Ce qu'il exprime encore le mieux, ce sont ses mots à lui, les mots de Julius Payer, se recueillir en soi-même. C'est peut-être l'expression la plus parfaite de mon sentiment de la vie. Je me recueille en moi-même. Et ce moi-même, cette couche la plus profonde et la plus riche en moi, où je me recueille, je l'appelle Dieu. C'est bien mon sentiment perpétuel et constant, celui d'être dans les bras de Dieu, protégé, abrité, imprégné d'un sentiment d'éternité. Ce qu'il y a d'étonnant, de percutant chez Etty Lussum, ce sont les affirmations constantes, répétées, insistantes, que malgré tout, malgré sa souffrance, malgré la vie dans ses profondeurs est bonne, elle est belle, elle est pleine de sens. Comment ferais-je pour faire sentir à d'autres comme la vie est belle, comme elle mérite d'être vécue et comme elle est juste, oui, juste? Peut-être Dieu me fera-t-il trouver des mots qu'il faut quelques mots simples, des mots colorés, passionnés et graves aussi, mais par-dessus tout des mots simples. Même si l'on doit connaître une mort affreuse, la force essentielle consiste à sentir au fond de soi, jusqu'à la fin, que la vie a un sens, qu'elle est belle, que l'on a réalisé toutes ses virtualités au cours d'une existence qui était bonne. De minute en minute, de plus en plus de souhaits, de désirs, de liens affectifs se détachent de moi. Je suis prête à tout accepter. Tout lieu de la terre où il plaira Dieu de m'envoyer, prête aussi à témoigner à travers toutes les situations et jusqu'à la mort de la beauté et du sens de cette vie. Si elle est devenue ce qu'elle est, ce n'est pas le fait de Dieu, mais la nôtre. Nous avons reçu en partage toutes les possibilités d'épanouissement, mais nous n'avons pas encore appris à exploiter ces possibilités. On dirait qu'à chaque instant, des fardeaux de plus en plus nombreux tombent de mes épaules, que les frontières séparant aujourd'hui les hommes et les peuples s'effacent devant moi. On dirait parfois que la vie m'est devenue transparente, et le cœur humain aussi. Je vois et je comprends sans cesse plus de choses. Je sens une paix intérieure grandissante, et j'ai une confiance en Dieu dont l'approfondissement rapide, au début, m'effrayait presque, mais qui fait de plus en plus partie de moi-même. Etty se défend d'être idéaliste. Elle ne maquille pas la réalité, elle ne se cache pas les atrocités dont elle est chaque jour témoin. Ses convictions que le monde est beau et qu'il est plein de sens ne sont pas le fruit d'une théorie abstraite, de jeux intellectuels ou littéraires. Elle relève de la mystérieuse rencontre en elle, de la liberté et de la grâce. Je me rends compte de tout jusqu'au moindre détail. Je crois que dans mes discussions intérieures, je garde les pieds sur terre, sur le sol dur de la dure réalité. Mon acceptation n'est ni résignation, ni abdication de la volonté. Il y a toujours place pour la plus élémentaire indignation morale devant un régime qui traite ainsi les êtres humains. Mais les événements ont pris à mes yeux des proportions trop énormes, trop démoniaques, pour qu'on puisse y réagir par une rancune personnelle ou une hostilité exacerbée. Cette réaction me paraît puérile, totalement inadaptée au caractère fatal de l'événement. Il n'est pas vrai que je veuille aller au-devant de mon anéantissement avec un sourire de soumission aux lèvres. Ce n'est pas cela non plus. C'est le sentiment de l'inéluctable, son acceptation et en même temps la conviction qu'en fait, rien ne peut plus nous être ravi. Etty, on le voit, aime profondément, passionnément, intensément la vie. Elle se refuse d'accuser la vie de tous les malheurs qui affectent l'homme. Pour elle, le remède est à chercher du côté de la responsabilité personnelle. Extirper le mal en nous, telle est la solution. C'est la seule solution, vraiment la seule. Je ne vois pas d'autres issues que chacun de nous fasse un retour sur lui-même et extirpe et anéantisse en lui tout ce qu'il croit devoir anéantir chez les autres. Eti choisit résolument l'amour et rejette toute haine, comprenant que le moindre atome de haine ajouté à ce monde le rend plus inhospitalier encore. Elle affirme par là sa liberté inaliénable. Les champs de l'âme et de l'esprit sont si vastes, si infinis, que ce petit tas d'inconfort et de souffrance physique n'a plus guère d'importance. Je n'ai pas l'impression d'avoir été privé de ma liberté, et au fond, personne ne peut vraiment me faire de mal. Rien ne peut plus nous être ravi. On retrouve là les valeurs d'attitude dont parlait le psychiatre Viktor Frankl. Si la paix s'installe un jour, elle ne pourra être authentique que si chaque individu fait d'abord la paix en soi-même, extirpe tout sentiment de haine pour quelque race ou quelque peuple que ce soit, ou bien domine cette haine et la change en autre chose, peut-être même à la longue en amour, ou est-ce trop demandé? C'est pourtant la seule solution. Je suis une femme heureuse et je chante les louanges de cette vie. Oui, vous avez bien lu, en l'an de grâce 1942, la énième année de guerre. Je me crois capable de tout supporter, de tout assumer de cette vie, de cette époque. Et si les turbulences sont trop fortes, si je ne sais plus comment m'en sortir, il me restera toujours deux mains à joindre et un genou à fléchir. Quelle étrange histoire tout de même que la mienne, celle de la fille qui ne savait pas s'agenouiller, ou variante de la fille qui a appris à prier. C'est mon geste le plus intime encore, que ceux que j'ai dans l'intimité d'un homme. Je voudrais terminer en vous lisant un passage d'une des lettres où elle confie un texte qu'on ne retrouve pas dans son journal. Elle s'adresse à Dieu. Toi qui m'as tant enrichi, mon Dieu, permets-moi aussi de donner à main pleine. Ma vie s'est muée en un dialogue interrompu avec toi, mon Dieu, un long dialogue. Quand je me tiens dans un coin du camp, les pieds plantés dans ta terre, les yeux levés vers ton ciel, j'ai parfois le visage inondé de larmes, unique exutoire de mon émotion intérieure et de ma gratitude. Le soir aussi, lorsque couché dans mon lit, je me recueille en toi, mon Dieu, des larmes de gratitude m'inondent parfois le visage. Et c'est ma prière. Je suis très fatigué depuis quelques jours. mais cela passera comme le reste. Tout progresse selon un rythme profond, propre à chacun de nous, et l'on devrait apprendre aux gens à écouter et à respecter ce rythme. C'est ce qu'un être humain peut apprendre de plus important en cette vie. Je ne lutte pas avec toi, mon Dieu. Ma vie n'est qu'un long dialogue avec toi. Il se peut que je ne devienne jamais la grande artiste que je voudrais être, car je suis trop bien abrité en toi, mon Dieu. Je voudrais parfois tracer à la pointe sèche de petits aphorismes, de petites histoires vibrantes d'émotions, mais le premier mot qui me vient à l'esprit, toujours le même, c'est Dieu. Et il contient tout et il rend tout le reste inutile. Et toute mon énergie créatrice se convertit en dialogue intérieur avec toi. La houle de mon cœur s'est faite plus large depuis que je suis ici, plus animée et plus paisible à la fois. Et j'ai le sentiment que ma richesse intérieure s'accroît sans cesse. Ce texte d'Etty Illesum a été écrit 3 mois avant sa mort dans le camp de Auschwitz.
Vous venez d'entendre « Sous l'olivier » avec Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.